Bonjour Monseigneur Camiade.
Bonjour Thibault.
Avec vous pendant ce mois de mai, nous explorons la question des vocations. La semaine dernière, nous avons tenté une définition en parcourant les différents états. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder comment l'Église s'y prend pour éveiller, susciter ses vocations. Comme toute organisation structurée, l'Église a plein de services et notamment elle a un service des vocations. Un service qui est dirigé par une Xavière, la sœur Nathalie Bécard. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de ce que fait cette sœur, de ce que fait son service?
Alors beaucoup de choses parce que, évidemment, comme je disais la semaine dernière, j'ai participé dans mon diocèse il y a quelques années au service des vocations et donc on avait des liens avec les services régionaux, nationaux et j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Seulement à l'époque, le service national des vocations était une entité à part et il y a eu un choix des évêques il y a quelques années de regrouper service des vocations et ce qu'ils ont appelé le service de l'évangélisation des jeunes. Alors ça s'appelle maintenant service de l'évangélisation des jeunes et des vocations. Et c'est un point très important parce que, au fond, moi je ne pense pas qu'il y ait de difficultés, même si ce n'est pas toujours facile de discerner sa vocation aujourd'hui, il n'y a pas forcément de difficultés de fond. Des jeunes qui ont la foi, qui sont évangélisés, cherchent à discerner quelle est leur vocation. Alors après, c'est pas pour ça qu'ils trouvent tout de suite, mais le fond de la question, c'est déjà d'éveiller le goût de Dieu, l'expérience de Dieu, l'expérience d'être en relation avec Dieu, en alliance avec lui, pour pouvoir entendre ses appels, et notamment avoir une vie de prière, un attachement au Christ. On se rend compte que les jeunes qui aujourd'hui s'engagent dans des vocations spécifiques, notamment, le font après une expérience spirituelle forte, un grand attachement au Christ. Donc l'évangélisation des jeunes est première d'une certaine manière. Et donc cette sœur Nathalie Bécard, avec toute une équipe au niveau national, c'est assez structuré, pour ce qui est des vocations, bien déjà fait le lien avec l'évangélisation des jeunes, de telle sorte que dans l'évangélisation des jeunes, on n'oublie pas la dimension vocationnelle qui est très importante. Et puis, il y a un site national du service des vocations qui donne beaucoup d'informations. Et il y a des propositions de formation, plus exactement de week-end de discernement ou de session pour des jeunes, des retraites. Alors, soit national, soit local. Je pense que le site met en lien un petit peu aussi les jeunes qui cherchent, par exemple, sur le site national, vont souvent assez facilement être renvoyés sur s'il y en a un sur le site de leur diocèse ou au moins les coordonnées des responsables diocésains.
Oui, parce que chaque évêque essaye de susciter dans son diocèse. Il veut naturellement capter des vocations pour nourrir un peu son diocèse. Donc
ce que vous dites là pourrait poser question. Est-ce qu'on veut capter des vocations? Ça serait peut-être un manque. Ce serait pas très juste, je pense. Chaque évêque veut accompagner les jeunes qui lui sont confiés dans son ministère pastoral, bien sûr, et il veut comment dirais-je lancer l'appel et stimuler. Mais il ne s'agit pas de capter l'un ou l'autre jeune, il ne s'agit pas de récupérer qui que ce soit. Au contraire, la découverte par un jeune de sa vocation va le libérer et lui permettre d'être pleinement lui-même. Et, enfin voilà, il ne faut pas être trop dans la captation, je pense. Mais évidemment, on ne va pas dire non plus qu'on cherche à faire fuir les jeunes. Et chaque évêque essaye de proposer sans doute des choses. Et en tout cas, surtout d'être au service des jeunes, parce que vous savez, c'est quand même le Seigneur qui appelle. Et même si il y a des conditionnements humains qui sont évidents, l'expérience que l'on a, les rencontres que l'on fait sont souvent déterminantes. Et il faut que nous soyons tous assez attentifs aussi à l'écoute des jeunes qui se présentent ou que l'on rencontre. Mais cette écoute, voilà, doit absolument pas être captatrice. Et en même temps être vigilante parce que quelquefois effectivement une rencontre loupée peut amener une fuite et c'est peut-être un peu dommage dans certains cas, mais en même temps si le jeune trouve sa voie ailleurs c'est peut-être que le Seigneur s'est servi aussi de nos faiblesses. Bon voilà, il ne faut pas les cultiver pour autant.
C'est vrai qu'il n'y a pas que les diocèses, il y a aussi il y a des ordres, les jésuites par exemple.
Absolument,
il y a aussi
bien
des mouvements charismatiques,
absolument.
Les manuels, enfin voilà, il n'y a pas que les diocèses qui appellent, entre guillemets.
Alors dans mes missions précédentes, j'ai été longtemps au service des vocations, et notamment aussi au niveau de la région, enfin c'était les deux anciennes provinces de Poitiers et de Bordeaux, nous avions des propositions de week-end d'accompagnement pour des jeunes qui se questionnaient sur leur vocation. Et nous faisions très attention à leur présenter toutes les vocations, de telle sorte que ils soient pas enfermés non plus. Et le fait de le faire au niveau de la région, ou de même ce qui est proposé au niveau national, ça permet aussi ce recul et d'éviter la captation dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, il existait la même chose aussi pour les filles. Là aussi, c'est assez complexe parce que souvent, autant les garçons, disons spontanément, quand ils n'ont pas trop de points d'ancrage dans une communauté religieuse ou de désirs précis, ils savent qu'il y a toujours le diocèse. Les filles, il faut vraiment qu'elles trouvent une communauté religieuse. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer des jeunes filles qui se questionnaient sur leur vocation, mais qui se demandent mais où? Parce qu'elles savent que la vie religieuse existe, elles se sentent attirées à donner toute leur vie pour le Christ, par amour pour le Christ, au service de l'Église, mais elles savent pas trop où parce que elles n'ont pas eu l'occasion encore de rencontrer la communauté où le Seigneur les appelle. Alors, je pense pas que le zapping ou de faire le tour de toutes les communautés soit forcément la bonne option. Le Seigneur en général fait signe quand même assez clairement là où il veut justement lui-même attirer quelqu'un. Mais il y a quand même voilà, un grand intérêt à avoir des services diocésains, nationaux, régionaux qui présentent les différentes formes de vocation pour aider ces jeunes à discerner.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le piège. La France a tellement besoin de prêtres, on pourrait se dire, mais la priorité numéro un de service national des vocations, c'est de trouver des prêtres, etc. Mais non.
Oui, la revue qui était produite par le service des vocations, Jeunes et Vocations, à une époque s'appelait le recrutement sacerdotal. Donc c'est pour dire que c'était une vieille problématique. Et si on a changé, c'est précisément pour montrer que ce qui est premier, c'est le jeune, et c'est de discerner sa vocation. Pour l'Église, bien sûr, hein, il ne s'agit pas non plus de l'enfermer en lui-même. Notre vie a un sens quand elle est pour les autres. Et le fait que l'Église manque de prêtres, c'est un appel en soi. On peut faire retentir, et qu'il est nécessaire même de faire retentir souvent, parce que dire qu'on n'en ait pas besoin, ce serait aussi tromper les jeunes. Ils pourraient se dire, bah, s'il n'y en a pas besoin, je vais voir donner ma vie autrement. Donc il faut que nous le disions simplement avec modestie, et en fait l'attitude d'humilité, de respect de la liberté doit se conjuguer, quoi. On respecte profondément la liberté des jeunes, et en même temps il faut que notre Église ait l'humilité de dire, nous avons besoin de vous. Voilà, après, discerner ce que le Seigneur attend de vous, ce que vous pouvez donner, mais objectivement, nous avons besoin de vous.
C'est vrai qu'il y a l'appel et il y a aussi le fait d'être capable de formuler « j'ai besoin de toi ». Ça marche un peu dans les deux sens aussi.
Absolument, et puis quelquefois, dire aussi à un jeune « mais moi je te verrai bien prêtre », même s'il n'est pas du coup obligé de dire « ben moi je me vois aussi » ou « je m'y vois pas », il n'est pas obligé de répondre, mais il entend cette parole, par exemple d'un prêtre ou d'un catéchiste ou d'un animateur ou d'un adulte qui le connaît bien, ce jeune va se dire « tiens, d'abord ben, ça veut dire peut-être que ce monsieur ou ce prêtre m'estime et c'est encourageant pour lui, mais ça va l'amener peut-être à se questionner sur mais quel est le sens de ma vie et est-ce qu'effectivement ça constitue un appel et c'est à vérifier, c'est à vivre dans l'accompagnement. L'accompagnement spirituel jouera alors un grand rôle, quoi.
On en parlera la semaine prochaine. Mais justement, vous, comme évêque de Cahors, est-ce que vous avez une manière un peu à vous? Est-ce que vous êtes construit? Est-ce que vous vous êtes défini? Une manière d'appeler les jeunes? Une manière d'aller chercher de...
Alors, je pense pas que je puisse dire ça, parce que autant il m'est arrivé comme prêtre d'interpeller quelques jeunes, pas souvent, mais personnellement. Il m'est arrivé aussi très souvent de le faire collectivement, à des groupes, en disant « voilà, posez-vous la question ». Mais aujourd'hui, comme évêque, je me garderai de dire à un jeune « je te verrai bien prêtre dans le diocèse de Cahors, par exemple ». Parce que ce sera mon rôle de le lui dire le jour où je vais l'ordonner prêtre, si effectivement c'est sa vocation et qu'il a cheminé librement vers cela. Mais c'est trop tôt. Je pense que c'est plus le rôle d'un prêtre, de quelqu'un qui est proche des jeunes, ou d'un parent, d'un catéchiste, de quelqu'un qui connaît bien un jeune et qui le voit évoluer, d'interpeller de cette manière-là, et comme évêque plutôt d'accueillir ensuite la démarche. Alors ça peut se discuter, hein, il y a sûrement d'autres manières de faire, mais en ce qui me concerne, j'aurais pas cette vision-là, du moins spontanément. Après, j'ai plus je cultive plus, disons, une attitude de détachement par rapport à ces questions et j'essaye de me mettre plutôt sous la motion du Saint-Esprit en disant, plutôt que d'avoir un protocole d'action, en disant au Seigneur, ben écoute, voilà, je suis dans une rencontre avec des jeunes, par exemple, etc. Ben, si tu veux qu'une parole de ma part joue un rôle quelconque dans leur vocation, ben, elle sortira naturellement au cours de la conversation. Je me laisse plus porter, j'essaye de me laisser, de me rendre docile au Saint-Esprit, me laisser plus porter par l'émotion que le Seigneur peut provoquer. C'est souvent, en fait, les jeunes, je le vois dans des rencontres, qui interpelle l'évêque en disant mais qu'est-ce que vous pensez de l'appel, de la vocation, et on peut avoir des échanges de cette manière et parfois très intéressants. Voilà, mais j'ai en tout cas personnellement une vigilance particulière à ne pas, pas capter un jeune, quoi.
Parce que c'est le rôle de proximité de l'accompagnateur, du prêtre, de, etc., etc. Que vous,
ben, c'est
vous
pas son rôle de capter non plus d'ailleurs. Hein. Il faut que chacun fasse attention. Oui. Mais comme évêque, ma parole a un poids différent. Étant donné ma mission, qui sera le jour venu, effectivement, d'appeler le prêtre, ou le diacre d'ailleurs aussi, ce qui est un autre domaine. Après, l'appel pour des ministères, les ministères dont on a besoin dans le diocèse, ça reste quand même dans la responsabilité de l'évêque, et donc rappeler souvent... Ben, que il faut se poser la question et puis qu'il faut prier aussi à cette intention, fait partie de ma mission, au cœur de ma mission.
Merci Mgr Camia de nous avoir accompagnés aujourd'hui. La semaine prochaine, nous nous mettrons à la place d'un jeune. Je suis appelé à la grande affaire. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà, nous voyons ça la semaine prochaine. Merci.
Merci à vous.